La parole du jour avec Claude Frisch, diacre.
Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Pour cette dernière séquence sur une approche de la libération dans la Bible, je vais aborder quelque chose qui effectivement nous étreint, nous empêche de vivre heureux, nous empêche de vivre libre. Ça fait partie de notre humanité. Dieu nous aime avec nos richesses, bien sûr, nos limites. Et dans nos limites, il y a quelquefois le péché. On se demande donc d'où viennent le péché, le mal et la souffrance dans notre monde. Alors je vais vous en parler en trois parties, on va dire, même quatre. D'abord, il y a la doctrine du péché. La deuxième, le péché dans notre vie. Ce que dit l'Église catholique sur le péché. Et enfin, quelques mots en introduction sur la doctrine du péché originel. Alors avant la création du monde, il y avait un échange d'amour parfait entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Seul cet échange d'amour est créateur d'une personne que nous appelons Dieu le Saint-Esprit. Et lorsque les temps sont venus, Dieu créa les anges qui sont de purs esprits. Aux anges, Dieu a soumis son projet de créer des êtres humains qui sont composés d'esprit et de matière. Tous les anges auraient accepté ce projet, sauf un seul, le démon. Alors le démon, c'est ce qui divise. Diable, c'est ce qui divise. Aussi, le chapitre 12, versets 7 et suivant du livre de l'Apocalypse nous dit qu'il y a eu un combat dans le ciel et que le démon fut précipité sur la terre. Lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, le démon se change en serpent pour tenter Ève. Dieu dit à l'homme de manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Pour tenter Ève, le démon lui dit que le jour où elle mangera de l'arbre défendu, ses yeux s'ouvriront et elle sera comme des dieux connaissant le bien et le mal. Les conséquences de la chute furent immédiates. Ils s'aperçurent qu'ils étaient nus, il fallait punir les coupables. La femme enfantera dans la douleur, et l'homme, quant à lui, gagnera son pain à la sueur de son front. Ils connaîtront la souffrance et finalement la mort. Le bonheur de ce paradis est définitivement perdu pour l'homme. Adam et Ève vivront désormais dans cette condition, mais Dieu est miséricordieux. Il sait que l'homme a péché parce qu'il a été tenté. Il vient le sauver par la mort et la résurrection du Christ. Lorsque nous naissons, nous arrivons dans un monde où le mal et le bien coexistent. L'amour et le non-amour, la vérité et le mensonge. Le mal fait du bruit pour mieux nous séduire, le bien est discret. À nous de choisir librement, et toute notre vie est un choix. Si nous voulons mener une vie terrestre à peu près dans le bien et l'amour, ou dans le mal, l'amour ne peut pas s'imposer, mais doit se choisir en étant libre. Saint Paul affirme dans ses épîtres qu'en Adam, tous sont péchés. Et que c'est là le péché originel, qui signifie « péché des origines de l'humanité ». C'est le baptême qui nous lave du péché originel. Saint Paul nous dit aussi que la faute d'Adam est une heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur, le Christ. Il nous dit aussi que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. En Saint Paul aux Corinthiens 15, verset 17, il nous dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, on demeure dans le péché ». Et Saint Jean, dans sa première épître, nous dit « Or voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voyons voir un petit peu le péché dans notre vie. En fait, le péché est tout ce qui offense Dieu et son amour, parce que cela détruit quelque chose d'humain en nous et dans les autres, tel que Dieu le désire, tel que Dieu nous a créés. Les manques d'amour sont terribles. Le péché peut se commettre en pensée, en parole, par action ou par omission. Dans des conditions sociales, politiques, économiques, où l'homme est responsable individuellement ou collectivement. Je vais vous parler des péchés capitaux ou péchés mortels qui ont été identifiés au VIe siècle par le pape Grégoire le Grand. Il y en a sept et ils ont sept vertus qui aident à les combattre. L'intempérance et en face le jeûne. L'avidité et en face la générosité, la charité. La paresse d'un côté, la vigilance de l'autre. L'orgueil d'un côté, l'humilité. L'envie ou la jalousie, la bienveillance et la douceur de l'autre. La colère d'un côté, la patience de l'autre. La luxure. Et la chasteté. Alors l'intempérance, c'est en fait jouir du plaisir. Un glouton fait passer son estomac avant tout le reste. Donc c'est pas manger pour se nourrir, c'est bien se jeter sur des aliments ou ne pas partager son repas. Et donc cette vertu en face, c'est le jeûne, l'abstinence, qui permettent de purifier son âme. Jeûner, c'est se priver de quelque chose qui est difficile pour nous. Et puis l'avare, l'avarice. Lorsqu'on voit aujourd'hui ce qui est dénoncé dans Laudato Si autour des forces de l'argent, voilà, c'est un bon exemple, une bonne illustration de ce que peut être l'avarice ou l'orgueil. Quelqu'un qui ne partage pas, qui prend plaisir à posséder beaucoup. En biens matériels, en argent, etc. Et en face, en fait, nous avons la générosité qui nous aide à donner ce que l'on a à ceux qui sont dans le besoin. Nous apprenons ainsi à nous détacher des biens de ce monde qui sont éphémères, bien sûr. La générosité, la charité, consiste à savoir donner de son temps ou de son argent. La paresse, qui préfère en faire le minimum et se reposer au risque de faire reposer de lourdes tâches sur les épaules des autres. Et puis en face, il y a la vigilance contre la paresse. Cette vertu est une habitude de rester attentif, de faire attention. L'orgueil, qui a toujours raison, du moins le croit-il, qui n'admet jamais ses torts, est capable d'enfoncer, d'humilier les autres. Et puis en face, il y a l'humilité, qui nous aide à ne pas nous savoir supérieurs aux autres. Qui sait qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis le jaloux qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a et regarde avec envie chez le voisin, avec en face la douceur et la bienveillance. Enfin la colère qui s'emporte pour un rien, qui le met en rage, même s'il existe une sainte colère, comme le Christ en chassant les vendeurs du temple. En face, il y a la patience. Et enfin, la recherche du plaisir par tous les moyens, ne faire que rechercher le plaisir, avec en face, disons, l'abstinence ou la réserve ou la régulation. Enfin, tout cela pour dire que nous ne sommes jamais ni dans l'un ni dans l'autre, et que seul l'amour nous permet d'avancer. Seule la bonté, le partage, l'engagement nous permettent d'être dans le projet de Dieu. Pour finir, je terminerai par ces 10 commandements sur lesquels il faudrait s'étendre davantage. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras tes parents. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'impureté. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu n'auras pas de désir impur involontaire. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Mais comme nous l'avons vu, la vie de foi est une histoire de libération où Dieu s'inscrit. Il n'est pas un juge terrible. Il nous invite simplement à prendre une direction avec ceux que nous aimons, parce qu'il nous aime comme nous sommes. Voilà ce que je peux reprendre dans la Bible. Ne faites plus, saint Paul aux Romains, ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour obéir, vous devenez les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Jean 1. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. En nous, son amour est accompli. À ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit et nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.